épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3. Nous lirons du verset 22 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Juste quelques versets. C'est à ce point que nous sommes arrivés dans notre étude de l'épître inspirée de l'apôtre Paul. Serviteur, le mot c'est esclave, mais on va être plus gentil. Serviteur, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, au travail, pour le maître, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice et il n'y a pas de considération de personne. Dieu n'est pas partiel. Il nous juge même ce que nous faisons sur le lieu de travail. Maître, maintenant c'est les maîtres. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et il faut qu'on parle quelques moments en introduction avant d'aborder cette question du lieu de travail. Vous pouvez vous demander, qu'en est-il de l'esclavage pour le christianisme ? Si vous voulez regarder 1 Corinthiens 7, les versets 21 à 24, et l'épître de Philémon, vous verrez que l'apôtre dit que les hommes ne doivent pas être l'esclave d'autres hommes. Mais en même temps, les chrétiens sont une partie minuscule de cet empire romain gigantesque, et ils vont pas révolutionner l'ordre existant. Donc, Paul donne des consignes sur comment vivre dans la situation où nous en sommes. Et c'est normal. On dit que 40 à 65% de votre temps éveillé, vous allez le passer dans des activités liées à votre travail. Et il faut bien donc que la Bible nous parle de notre boulot. Pour vous donner un contexte plus grand que notre passage, parce que la Bible enseigne un peu partout au sujet du travail, le travail est une partie de la bonne création de Dieu. Donc Dieu a fait Adam et Ève dans le jardin, il a donné une tâche à Adam et à Ève par rapport au monde. Et donc, vivre seulement pour le week-end, ce n'est pas une attitude chrétienne. Parce que le travail fait partie de l'appel de Dieu. Et dans chaque travail légitime, je ne parle pas si votre boulot c'est trafiquer les drogues, vous devez abandonner ça tout de suite. Mais dans tout travail légitime, que ce soit la personne qui ramasse nos poubelles ou la personne qui nous parle depuis la télévision à 20h, dans tout travail légitime, il y a quelque chose de bon qu'on est en train de faire pour les autres. Je me souviens au lycée, j'ai fréquenté un lycée avec à peu près 1600 élèves. Et dans ce lycée, il y avait un homme que tout le monde connaissait, les profs, les lycéens, les administrateurs, tout le monde admirait. Et cette personne, le lycée aurait été un endroit différent sans lui. Son attitude tellement accueillante, son sourire, son sens d'humour, sa disponibilité à toujours être là pour tout le monde. Il était vraiment un peu un des personnages centraux du lycée. Et c'était pas un prof, et c'était pas le directeur, c'était le chef de l'équipe de ménage. Tout le monde connaissait Monsieur Brock et tout le monde l'aimait. Et ce qu'il faisait, vous pourriez dire, si vous ne comprenez pas l'optique chrétienne sur le travail, que c'était un travail banal. Il n'y avait rien de banal dans la présence et l'activité de Monsieur Brock dans ce lycée. Donc, le travail fait partie de la bonne création de Dieu. Le travail a été abîmé par le péché de l'homme. J'ai pas besoin de vous le dire parce que si vous travaillez, vous savez que le lieu de travail est un lieu où on subit beaucoup de malheurs, où on a beaucoup de peines, où il y a beaucoup d'injustices, avec aussi des joies et de l'épanouissement. Le travail en lui-même n'est pas assez grand pour satisfaire le cœur humain. Il y a des gens qui essaient de trouver leur sens de vie dans leur travail, mais cela ne marche jamais. Le cœur humain est trop grand pour cela. Il n'y a que Dieu qui puisse lui satisfaire. Donc le travail de lundi à vendredi, disons, c'est un appel de Dieu, mais un appel secondaire, qui se situe dans un appel beaucoup plus vaste et glorieux et éternel que Dieu vous donne de le connaître, de le servir avec tout ce que cela signifie d'éternellement important. Le travail a été abîmé par la chute de l'homme, mais le travail est racheté par Jésus-Christ. Déjà, les chrétiens expérimentent le fait que Christ est en train de récupérer même le lieu de travail pour lui-même. Et nous allons voir ça et comment ça affecte le chrétien et révolutionne la manière dont le chrétien peut vivre dans son lieu de travail, quel qu'il soit. Nous allons maintenant venir un peu plus près de notre passage et je finis mon introduction et le message sera assez simple après cela. Mais je veux vous indiquer deux ou trois choses que nous pouvons voir dans ce passage avant de regarder les arbres, en regardant juste la forêt. La première chose que nous voyons en lisant ce passage, c'est que la présence de Jésus dans ta vie transforme le travail, le lieu de travail. Nous voyons cela dans des phrases comme, regardez le verset 22. Remarquez le langage de transformation ici. Non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, comme pour le Seigneur. Vous voyez un changement. Non plus comme avant, comme pour les hommes. Et le chrétien, il est transformé, il a une autre façon de vivre au lieu de travail. Ou bien le verset 23, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Les choses changent, les choses revirent ailleurs. Deuxième chose que nous pouvons noter de manière générale, c'est que la présence de Jésus dans ta vie donne une stabilité à la manière dont tu vis ton travail. Si tu apprends en tant que chrétien à travailler pour le Seigneur dans ton lieu de travail, la qualité de ton travail ne dépend pas de la bonté de ton patron terrestre. D'accord? Ça change tout. Le verset 23. Tout ce que vous faites, remarquez le mot tout, parce que ça montre la stabilité. Notre vie de travail n'est pas comme ça. Parfois, je travaille de tout cœur, parfois, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le Seigneur Jésus récupère ton métier et toi dans ton métier et il dit, ça c'est à moi maintenant. C'est pour moi maintenant. J'investis un sens énorme dans ton lieu de travail. Alors, tu peux, de manière stable, faire ton travail d'une manière différente. Et vous aimeriez tous avoir un patron parfait, n'est-ce pas? Et je vous dis que vous en avez un maintenant. Le vrai patron, c'est le Seigneur Jésus. Ensuite, la présence de Jésus dans votre lieu de travail ou dans votre vie, je l'ai dit un peu, mais investit dans ton travail un sens, mais carrément céleste et éternel. C'est difficile à le croire, mais c'est la Bible qui le dit. Regardez avec moi le verset 22, vous allez voir comment Paul contraste ce qui est juste terrestre et éphémère avec ce qui est céleste et éternel et qui a un sens qui n'en finit jamais. Le verset 23. « Vos maîtres selon la chair. » Ok. Verset 24. « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. » Et dans le contexte de l'Épître, il parle de l'héritage éternel, le royaume de Dieu. Verset 1 du chapitre 4. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Il y a quelque chose d'un autre monde maintenant qui est venu s'immiscer dans votre lieu de travail. Le Seigneur dit, maintenant, ce que vous faites à l'usine, ou au magasin, ou à l'école, ce que vous faites dans votre cabinet, cela, comme c'est pour moi, ça a un sens au-delà de ce monde et de cette vie. Ça révolutionne complètement celui ou celle qui le comprend et qui le vit. Votre boulot n'est pas simplement une manière de faire de l'argent pour pouvoir vivre bien en dehors du travail. Et donc son importance n'est pas mesurée par ce que vous faites, mais son importance est mesurée par celui, par la grandeur de celui pour qui vous le faites. La dernière chose générale que je dirais, c'est que la présence du Seigneur Jésus dans ta vie investit ton lieu de travail d'un sens de responsabilité morale au travail. Est-ce que vous avez remarqué combien cela est frappant dans le passage? Regardez le verset 23. On est en train de parler du métier, du boulot, du travail. Et l'apôtre dit, « Car celui qui agit injustement, au travail, récoltera de Dieu selon son injustice et il n'y a pas de considération de personne. » Et puis il dit au maître, « Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Donc, chers amis, le plus important dans votre lieu de travail, ce n'est pas la productivité, c'est l'intégrité. C'est le bien devant le Créateur. C'est de faire ce qui est bien et pas ce qui est mal. Et ça change aussi le lieu de travail. Ouh là là, si les gens comprenaient cela, et s'ils comprenaient que dans leur lieu de travail, c'est le facteur le plus important, alors ça changerait tout. Le lieu de travail ne serait plus un lieu de malheur et de souffrance pour vous. Si les gens comprenaient que ce qui compte, c'est que je sois juste, est équitable et ce que je fasse, ce qui est bien et honnête. Imaginez ce que l'apôtre est en train de dire ici. Il est en train de nous donner quelque chose qui peut changer complètement le monde si on le vivait. Ok, ça nous permet de parler maintenant des employés. Ici, c'est les esclaves ou les serviteurs, peut-être le tiers des grandes villes dans l'Empire romain étaient constituées d'esclaves. Mais ne pensez pas à l'esclavage américain qui était racial, parce que vous avez dans les esclaves romains, vous avez toutes les races et vous avez beaucoup de gens qui se sont vendus eux-mêmes en esclavage. Vous avez certains qui ont été pris en esclavage dans une guerre, mais vous avez beaucoup de gens qui se vendent en esclavage parce que la société est tellement liée à l'esclavage économiquement que pour certains, il est plus difficile de vivre en dehors de l'esclavage que dedans, pour avoir un boulot. C'est bizarre, hein? C'est horrible. Mais et vous avez des esclaves qui sont gérants d'entreprises dans l'Empire romain, qui sont des esclaves d'aristocrates qui prennent soin de leurs enfants et qui gèrent carrément des entreprises, qui ont une belle maison, et vous avez des gens qui meurent tôt parce qu'ils travaillent dans les mines et qui sont traités comme des animaux. Donc vous avez, en lisant des documents de l'Antiquité, vous avez une vaste diversité dans l'esclavage du premier siècle. Ok, donc il y a deux choses en tant qu'employé, et nous allons laisser de côté l'esclavage, mais ça correspond à la relation employeur-employé aujourd'hui. Et Dieu nous dit simplement deux choses en tant qu'employé. C'est que nous devons avoir un certain rapport avec nos patrons et un certain rapport avec le boulot lui-même. D'accord? Regardez d'abord le rapport avec le patron. Et donc, je relis le verset 22. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Que voyons-nous là? D'abord, c'est cette obéissance de faire ce que le patron nous demande de faire. Si cette chose n'est pas un mal moral, si le patron nous demande de mentir ou de voler, on ne peut pas accéder à sa demande. Mais quand il nous demande de faire le boulot, de faire le vrai boulot, on fait ce qu'il demande. Par la force, donc on a ici l'image d'un employé loyal, fidèle, travailleur, respectueux, même si son patron n'est pas le meilleur type du monde. Parce qu'en 1 Pierre, nous lisons que ceci, excusez-moi, je vais juste vous lire un verset à la fin d'1 Pierre. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Voilà. Donc, le fait que mon patron soit difficile doit pas me rendre difficile. Parce que sinon, je le rejoins dans le mal. Donc, le texte de Dieu nous dit que nous devons faire ça par une certaine motivation. Il y a quelque chose qui peut vous motiver à être loyal à un patron qui n'est même s'il n'est pas formidable. Quelle est cette motivation? Dans le verset 22, avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur, d'abord, et ensuite dans le verset suivant, comme pour le Seigneur. Simplicité de cœur. Alors, simplicité de cœur, le mot grec, simplicité, signifie quelque chose qui n'est pas double. Quelque chose qui est simple. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire semblant. Je fais semblant d'être fidèle à toi, de bosser comme tu le veux, mais en réalité, il y a un double aspect dans ma vie, ce que je suis réellement et ce que je fais semblant d'être. Mais Dieu veut que vraiment de simplicité de cœur, mais réellement, mais sincèrement, nous désirons de faire notre boulot bien et de le faire loyalement. Comment? Il dit dans la crainte du Seigneur. Parce que toute ta vie maintenant, si tu es chrétienne, appartient à Jésus-Christ. Et tu es conscient que le Christ est saint, transcendant, il est Seigneur et il te demandera des comptes pour ta manière de travailler, même en tant que chrétien. C'est ce que le passage dit. C'est cette conscience de la présence du Seigneur. Et ce n'est pas une peur. Ce n'est pas une peur qui nous paralyse. C'est juste de savoir que je ne suis pas quelqu'un qui est livré à mon égoïsme pour faire ce que je veux. Qu'il y a un Dieu au-dessus de moi et il demande que je sois aimant, aimant, aimant. Et aimer, c'est aussi aimer mon patron, qu'il le mérite ou pas. Donc, il nous dit que nous pouvons obéir à nos patrons si nous vivons dans la crainte du Seigneur, sachant qu'il regarde dans la simplicité de cœur, qu'il récompense, qu'il est content de nous en voyant notre désir de faire le bien pour lui. Sachant que il investit notre travail de ce sens qui est au-delà de ce monde maintenant. Que quand tu fabriques tes pièces d'argent, pardon, de voiture, que c'est pas juste pour les voitures, c'est pour le Seigneur qui récompense. Parce que tu le fais comme pour lui. Maintenant, ça c'est la motivation positive, mais ça sous-entend qu'on évite des fausses attitudes. Et Paul nous dit au verset 22, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes. Alors, comme la traduction en français est tout à fait formidable, pas non seulement sous leurs yeux. Le mot en grec, on pense que c'est Paul qui l'a créé lui-même. Parce qu'il a mis ensemble deux mots qui signifient juste cette phrase sous les yeux, mais on voit jamais ce mot ailleurs dans les écrits en grec dans l'Antiquité. Mais il n'y a rien de plus commun dans le lieu de travail que de trouver des gens qui travaillent fort, mais vraiment fort, quand le patron passe. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus commun que ça? Et qui, dès qu'il passe, dès qu'il est parti, il murmure, il est parti, lâche. N'est-ce pas? Ça, c'est la manière de travailler, l'éthique du travailler de l'homme ou la femme qui ne travaille que pour plaire aux hommes. Et si vous pensez avec moi juste pour un moment, si vous travaillez comme ça, si quelqu'un travaille comme ça, il vit toute son vie de travail pendant des décennies, il vit le mensonge. Il vit le mensonge. Il fait semblant, il donne l'impression, il donne le message, il fait croire à son patron ce qui est malhonnête et pertinemment faux. Il est payé pour faire un boulot raisonnablement. Et il fait croire à son patron qu'il fait ce boulot alors qu'il fait tout pour ne pas le faire. Donc, il vit un mensonge perpétuel pendant des décennies sur le lieu de travail. Les gens demandent, est-ce que je suis pécheur? Pourquoi est-ce que... Mais tout le monde est bon. Je vous donne un péché là, le péché sur le lieu de travail. Est-ce que nous ne sommes pas tous coupables de cela? Est-ce que vous n'avez jamais travaillé sous les yeux du patron? D'une manière différente. Deuxièmement, une personne qui travaille seulement sous les yeux du patron, il refuse de vivre une vie d'amour. Il refuse de donner au patron ce qu'il voudrait qu'on lui donne s'il était le patron. Et il refuse de faire aux autres ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Et ça, c'est juste la définition biblique de l'amour. Donc, si il était patron et son patron était employé, il le servait comme ça, il serait vraiment fâché. Alors voilà, il refuse pendant des décennies de vivre une vie d'amour, de donner aux autres ce qu'il voudrait que les autres fassent pour lui. Troisièmement, s'il vit comme ça, il est en train de vivre la loi des œuvres et la loi de la justice propre au lieu de la vie de grâce. Alors, si vous êtes chrétien, vous me comprenez. Si vous n'êtes pas chrétien, peut-être vous allez pas comprendre cette partie. Mais pensez à ceci. La personne qui travaille que sous les yeux du patron, c'est la personne qui n'aime pas le patron, parce que le patron est un peu difficile, n'est-ce pas? Et comme il est difficile, je lui rends selon ses œuvres. S'il était un très bon patron, je travaillerais mieux. Mais moi, je marche sur la loi des œuvres. Si tu es bon avec moi en tant que patron, je travaillerai bien. Et donc, tu mets en place un système de bénédiction par les œuvres conditionnel, et donc tu fais tout le contraire que ce que Dieu fait avec nous en tant que pécheurs. Il nous pardonne sans qu'on fasse des bonnes œuvres pour le mériter, sans mérite. Il nous bénit, il nous aime sans qu'on le mérite. Et quel bonheur que d'être un chrétien au travail qui commence à refléter Dieu dans ce sens envers son patron et qui commence à lui donner bien plus qu'il ne mérite. La grâce entre dans le lieu de travail. C'est intéressant. Nous ne devons donc pas être des gens qui cherchent à plaire simplement aux hommes. Il n'y a rien de plus basse que la personne qui ne plaît qu'aux hommes. Et ce qui est intéressant, je vais m'arrêter là et aborder le deuxième grand point après. Ce qui est intéressant, c'est que si je travaille dans mon usine, dans mon bureau, dans mon cabinet, à la poste, où que ce soit. Si je travaille pour le Seigneur, je vais mieux travailler pour le patron. Pourquoi? Parce que même quand le patron n'est pas là, et il ne voit pas, et il n'écoute pas, et je ne peux pas avoir son plaisir, le Seigneur regarde, écoute, avec amour et intérêt, et je peux avoir son plaisir. Et donc, je travaille bien tout le temps si je travaille pour celui qui me regarde et qui m'aime et qui m'a sauvé. Maintenant, ça c'est la relation entre l'employé et le patron. Mais Paul dit quelque chose au sujet des rapports entre vous et votre travail lui-même. Donc, regardez avec moi encore au texte. Au verset 23, tout ce que vous faites, maintenant c'est votre rapport avec ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Alors le mot en grec qui est de toute votre âme, c'est vraiment, parfois on dit de tout votre cœur, mais ici c'est de l'âme. De toute votre âme, vraiment du fond de vous, faites tout votre travail. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça? Par quelle motivation? C'est un peu la même chose, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Alors, vous savez que si vous étiez esclave dans l'Empire romain, il est virtuellement sûr que vous n'aurez aucun héritage terrestre à la fin de votre boulot. D'accord? Aucun héritage. Mais le chrétien sait qu'il a déjà un héritage du royaume de Dieu. Vous avez la vie éternelle qui vous est donnée en récompense de la part du Seigneur Jésus et ça vous donne envie de travailler. De le glorifier, de lui rendre quelque chose dans ce monde. Alors, ça peut effrayer. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. Vous pouvez avoir l'impression que ça veut dire que vous devez faire chaque mouvement dans une telle ferveur qu'après 1 heure, vous êtes épuisé. N'est-ce pas? C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bien sûr, si vous devez travailler 8 jours pendant, 8 heures pendant un jour ou 7 heures, que vous devez vous ménager pour pouvoir travailler toute cette journée bien, mais que pendant toute cette journée, vous maintenez donc un enthousiasme, une conscience que Tout ce que je fais est récupéré par le Seigneur, voulu par le Seigneur, récompensé par le Seigneur et dans la joie du Seigneur. Et donc vous pouvez le faire. Non pas pour les hommes, dit-il, mais pour le Seigneur. Ça veut dire non pas principalement pour les hommes. Bien sûr, si tu aimes ton patron, tu auras envie de faire des choses pour lui, mais principalement pour le Seigneur. Ok, donc ça c'est les deux parties pour les employés. On a juste un verset et je vais finir avec les patrons. Mais rappelons-nous que nous avons ce rapport avec le patron, hein, que nous obéissons en toutes choses parce que nous le faisons dans la crainte du Seigneur. Et c'est comme le Seigneur vous dit, vous êtes à moi maintenant, alors vous voulez me rendre quelque chose? Alors donnez-le au patron. Donnez-le au patron et donc comme ça vous allez me plaire. Je vais vous récompenser dans le lieu de travail. Maintenant, Paul a beaucoup moins à dire au patron. Vous avez remarqué? Ça vous gêne? Quelqu'un dans un syndicat ici? Pourquoi? Je crois que si vous réfléchissez avec moi, les tentations d'un patron sont moins nombreuses, mais pas moins fortes. D'accord? Le patron a moins à faire avec vous en nombre de choses à faire. Vous faites plein de choses pour lui. Mais il a une tentation vraiment très grave. Et Paul se focalise. Il y a une chose qu'un patron doit faire et une motivation qui l'aidera à le faire. Et nous relisons donc ce verset 1. Maître, voilà la chose à faire, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Et la motivation, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Alors, si vous êtes patron, ou si vous le serez un jour, vous devez, parce que vous êtes sous l'autorité de Christ, vous devez accorder à vos serviteurs ce qui est vraiment juste et vraiment équitable. Et ça veut dire en termes de salaire, et ça veut dire que les femmes ont le même salaire que les hommes quand ils rendent le même travail. Ça, c'est une absurdité complète dans notre France. J'entendais une émission, un reportage à la radio cette semaine au sujet des efforts que l'administration française fait en ce moment pour essayer de remédier à ça. Mais c'est incroyable. Qui que vous soyez, il faut, si vous êtes patron, vous devez rendre ce qui est juste et équitable en termes de salaire. Deuxièmement, vous devez être juste et équitable envers vos employés en termes des heures de travail que vous demandez et du type de travail que vous demandez. N'est-ce pas? Si vous envoyez quelqu'un dans des mines ou travailler là, même pendant 15 ans, va complètement user le corps. Moi, je pense qu'un patron chrétien devrait établir une limite vraiment en nombre d'années et avoir en place une façon de déplacer cette personne dans un autre travail après. Mais en tout cas, le patron doit aussi être juste et équitable en termes des conditions de travail qu'il fournit à ses employés. Il y a parfois dans certains endroits du monde et parfois en France des conditions de travail lamentables et même dangereuses pour certains métiers. Et le patron doit donner ce qui est juste et équitable en termes de conditions de travail. Quatrièmement, si vous êtes patron, vous devez donner des primes ou des récompenses justes et équitables quand un employé rend un travail exceptionnel. Ça me semble la moindre des choses à faire. Quand un employé est appelé à aller beaucoup au-delà de la norme, le bon patron va faire refléter ça dans les récompenses qu'il donne à cet employé. Et la dernière chose, c'est que si vous êtes patron, vous devez être juste et équitable en termes de la manière dont vous parlez à vos employés, dont vous communiquez et dont vous tenez des relations avec eux. Moi, j'entends souvent des employés qui sont angoissés par des patrons qui s'emportent, qui parlent n'importe comment et qui ne disent presque un mot d'encouragement ou un mot gentil à leurs employés. Et cela, chez le patron chrétien, la patronne chrétienne, ça ne peut pas exister. Pour cette motivation et cette raison, vous aussi, vous avez un maître au ciel. Et ce maître, il va vous récompenser et vous juger par rapport à la manière dont vous avez usé de votre autorité sur le lieu de travail. Même les grands PDG des entreprises de 4 40, il n'y a aucune partialité, dit le texte biblique. Ils passeront devant le juge, devant le Seigneur, par rapport à tout cela. Et s'il ne passait pas, si Christ laissait tout cela, permettait sans aucun jugement qu'on fasse tant de mal, des vies sont ruinées sur le lieu de travail, je vous assure, mais complètement ruinées. Et si le Dieu qui est là n'était pas juge de ces choses, il ne serait pas digne de notre admiration. Donc que nous apprenions à vraiment investir le lieu de travail de toute cette joie qui vient du fait que Christ est là et que nous pouvons tout faire pour lui, il le prend pour lui et nous pouvons ainsi travailler d'une autre façon complètement. Bien, nous allons chanter au Seigneur pour terminer le culte. Un chant qui, je l'ai choisi depuis ce matin quand j'ai regardé.